Que faisons-nous, mon colonel ?
RTL.
Ces vieux généraux se croient toujours en 14. Ils se placent sur la défensive. Ils subissent. Jamais une attaque.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Une victoire, c'est aussi une disposition de l'esprit, une volonté de vaincre. Une foi intacte, indestructible. Et cette foi, je redoute que certains ne l'aient plus.
La curiosité est un vilain défaut.
Je pourrais enregistrer vos paroles et les diffuser pour lutter contre le défaitisme. Et croyez-moi, la radio est une arme puissante.
Du film de Gaulle, il sort mercredi. C'est un film RTL réalisé par Gabriel Baumin, avec dans les rôles principaux Lambert Wilson qui joue le général, et pour jouer sa femme Yvonne, Isabelle Carré. Comment est-il, vous avez raison Thomas, comment est-il devenu la voix de la France libre? C'est ce qu'on a envie de raconter dans notre émission grâce à ce discours du 18 juin 1940, et c'est notre consultant en histoire Pierre Baron qui va nous raconter les coulisses de cet événement. Bonjour Pierre.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Pierre.
Alors c'est quoi déjà la situation quand De Gaulle arrive à Londres? Pourquoi il arrive à Londres et pourquoi il quitte la France, évidemment?
Il quitte la France parce que l'armée française est en déroute, elle a volé en éclats. Cinq semaines avant, partir du 10 mai 40, la bataille de France, on appelle ça, et elle a volé en éclats face à l'offensive éclair des chars ennemis.
Donc le pays est en train de s'effondrer, comme le reste d'une partie de l'Europe?
Grande partie de nos voisins, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg aussi sont envahis par l'Allemagne. Et bien sûr, il va y avoir... le double effet du malheur, il va y avoir un désastre militaire et puis il va y avoir une catastrophe humaine. Quoi.
Oui, on le voit très bien dans le film, ça fait partie des scènes fortes de ce film RTL, c'est l'Exode.
C'est l'Exode, c'est des millions de civils qui fuient sur les routes l'avancée des troupes allemandes. On a tous en tête plus ou moins des films où on voit ces gens se faire bombarder par l'armée allemande, ce qui est vrai, quotidiennement. Ça représente, c'est colossal, hein, c'est 8 à 10 millions de personnes âgées, de femmes, d'enfants, familles entières, qui sont là, qui côtoient les colonnes de soldats, qui se replient en catastrophe. Donc, en gros, c'est un quart de la population française qui en déroute, quoi, qui est errante. Voilà. C'est ça,
ils vont où, en fait? Il y a un objectif,
dans
un lieu
dans un premier temps, pardon, Sidonie, dans un premier temps, ils se replient, ils partent de l'endroit où étaient les Allemands, et dans un premier temps seulement, ils filent vers Paris. De toute façon, c'est un premier temps. C'est, voilà, oui. Première direction, c'est de descendre vers la capitale. Et ça n'a pas duré.
Et puis ils vont continuer d'aller vers le sud. Si on prend quelques exemples de villes pour bien prendre conscience de ce que ça représente en nombre de personnes sur les routes, ça donne quoi?
Lille perd 90% de sa population. Ils sont plus que 20 000, ils étaient 200 000 avant. D'accord. Tourcoing, 7 000 sur 82 000 habitants initiaux au départ. Chartres, pourquoi j'aime bien Chartres, c'est parce que le préfet, c'est un certain Jean Moulin. Ouais. Et c'est Jean Moulin qui évalue sa population. Resté sur place, il fait un espèce de sondage, une espèce de, d'évaluation le 15 juin. Ouais. Et ils sont moins de 800 à Chartres, préfecture de l'Eure-et-Loire. Et la plupart, c'est des personnes âgées sur 23 000 habitants. Mais ils vivent dans une ville fantôme, ouais, Thomas. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de commerce. C'est juste lunaire, là, Chartres, comme la plupart des villes désertées.
Et à partir de quand les gens vont quitter Paris aussi?
Le 14 juin, Sidonie. Là, les soldats allemands vont défiler sous l'Arc de Triomphe. Et c'est reparti, les gens de l'Île-de-France vont s'enfuir à leur tour. Ça fait 2 millions quand même de Parisiens. C'est la population actuelle de Paris qui va quitter Paris intramuros pour fuir également.
Donc là, on a une panique générale, le peuple s'enfuit, erre. Comment les politiques vont réagir à cette situation en 1940?
Tout de suite, très très vite, il y a deux options, c'est vraiment immédiat. D'un côté, vous avez le maréchal Pétain, vous avez Pierre Laval, vous avez le général Végan, pour ne citer que ces trois-là, qui eux, grosso modo, et pour faire simple, se résignent à la défaite et donc réclament l'armistice. D'accord. Et de l'autre côté, on a le président du Conseil, on voit très bien d'ailleurs ça dans le film, qui est Paul Reynaud, et on a De Gaulle, qui, eux, veulent continuer le combat. Et voilà, ces deux clans vont cohabiter un petit peu avant que l'un des deux ne prenne le pas sur l'autre.
Mais il est qui, De Gaulle, à ce moment-là, à ce moment précis de l'histoire?
C'est un sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre, et il est rentré au gouvernement depuis assez peu de temps, début juin, le 5 ou le 6 juin, je crois, le 6 juin.
Et donc, il fait partie de ceux qui veulent la capitulation plutôt que l'armistice.
Et c'est une scène d'ailleurs qu'on voit dans le film. Olivier Gourmet, qui interprète le président du Conseil, Paul Reynaud, face à Lambert Wilson, dans la peau du général de Gaulle. Écoutez.
Végan a tout mon soutien. Et croyez-moi, le chef d'état-major fait tout ce qu'il peut, malgré la dérobade des Britanniques. Vous connaissez la situation, elle est dramatique. J'ai besoin d'hommes comme vous à mes côtés. Général de Gaulle. Oui, vous avez bien entendu, je vous ai promu général de brigade à titre provisoire.
J'en suis très honoré.
Cela vous donnera plus de poids au sein de mon cabinet. Vous quittez le front pour entrer au gouvernement, je vous nomme sous-secrétaire d'État à la Défense nationale directement sous mes ordres.
Pierre Baron, c'est quoi la différence entre capitulation et armistice ?
C'est une différence capitale, sans jeu de mots. La capitulation, c'est un acte militaire. En gros, ça veut dire que l'armée du pays constate sa défaite, mais qu'elle ne s'interdit pas de poursuivre le combat ailleurs, sur d'autres terrains, avec d'autres hommes et d'autres moyens logistiques.
Donc ça, c'est ce que veut De Gaulle, la capitulation.
La capitulation, c'est exactement ce que veut De Gaulle.
C'est ça, c'est ce que veut De Gaulle.
Pouvoir continuer le combat, Reynaud aussi.
Et l'armistice,
ce que veut Pétain, l'armistice, c'est beaucoup plus dur. Parce que l'armistice, c'est un acte politique, c'est pas un acte militaire. Ça veut dire, nous acceptons les conditions du vainqueur, toutes les conditions du vainqueur, et donc, ça veut dire que nous ne poursuivrons pas le combat. Ça veut dire qu'en clair, l'Allemagne a définitivement gagné cette guerre. Et c'est le clan de ceux qui prônent l'armistice qui va l'emporter au gouvernement.
Oui, et justement, c'est pour ça que Paul Reynaud va démissionner le 16 juin. Son ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, Georges Mandel, qui était juif, sera arrêté le lendemain. Et à ce moment-là, que fait De Gaulle ?
De Gaulle est envoyé en mission à Londres par Reynaud juste avant sa démission pour aller demander de l'aide aux Anglais, en l'occurrence bien sûr à Winston Churchill, le Premier ministre anglais. Il va le voir dans la soirée du 16 juin et on ne peut pas dire qu'il a été très bien reçu, il faut aussi comprendre pourquoi les Anglais viennent de prendre une grosse déroute, on en a parlé ici à Dunkerque, et que bien évidemment ils ont laissé sur le carreau, c'est-à-dire dans les dunes des plages du Nord, énormément de matériel et d'hommes, donc Churchill n'a pas les moyens d'aider tout de suite De Gaulle dans sa demande d'aide pour poursuivre le combat. L'armée anglaise ne le peut pas immédiatement.
Tandis qu'à Londres, une équipe nous apporte l'espoir, notre réconfort quotidien, à Paris, une autre équipe dirigée par Jean Guinbert prépare dans la clandestinité la libération des hommes.
La curiosité est un vilain défaut.
Il n'y a pas l'armée de ci et l'armée de ça selon les convenances de chacun. Il y a l'armée de la France et c'est la seule qui soit légitime à mes yeux.
Sur RTL.
J'aurais pu être beaucoup plus dur, vous savez.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Votre modération était déjà suffisamment parlante.
Extrait du film Le Grand Charles avec Bernard Farcy qui incarne le général de Gaulle. Et demain, vous pourrez découvrir sur vos écrans Lambert Wilson dans ce rôle emblématique. Et c'est la comédienne Isabelle Carré qui incarne Yvonne, qu'on surnommait Tante Yvonne. Et Pierre Baron, Charles de Gaulle, c'est vrai qu'on l'a longtemps surnommé...
Le Grand Charles.
Le Grand Charles. Le Grand Charles et Tante Yvonne. C'est vrai qu'on avait ça dans les familles dans les années, jusque dans les années 60, fin des années 60. Alors, on raconte avec vous, Pierre Baron, vous êtes notre consultant en histoire, ce 18 juin 40, cette grande date de notre histoire commune. Il faut dire que la veille, le maréchal Pétain, à la radio, a fait un discours ultra important, puisqu'il annonce l'armistice, il signe un pacte avec les Allemands, et il annonce qu'il faut cesser le combat, il fait don de sa personne aux Français. C'est aussi pour ça que De Gaulle décide qu'il faut prendre la parole et cet appel du 18 juin. Quand est-ce qu'il commence à l'écrire ?
La veille, au petit matin à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux ? Parce que c'est là qu'il y a le gouvernement siège depuis l'occupation d'une partie du pays. Bon, qui va jeter sur le papier une première version, un peu dure d'ailleurs, pour Pétain. Même très dure. Parce que c'est un général, parce que c'est un militaire, et donc il y a une question d'honneur. Avant toute considération patriotique, il y a une question de dignité, déjà, par rapport à ça. Et puis, à titre individuel, ce que le film montre assez bien, je trouve. C'est un homme très déchiré, De Gaulle, à ce moment-là, parce que c'est quand même un homme qui a laissé sa femme et ses enfants sur les routes de l'Exode, dont on vient de parler tout à l'heure. C'est un homme qui quitte son pays, et c'est pas rien, son pays. C'est un homme qui a une véritable expérience de ce que c'est que de ne pas céder à l'ennemi. Je rappelle quand même que en 14-18, il a tenté de s'échapper à plusieurs reprises, ce qui est le devoir d'un officier. Donc, lui, l'acte de résistance, il connaît, il n'a pas attendu. Et... quand il se retrouve à Londres, c'est pas seulement sa vie qui l'engage. Je pense qu'il est tout à fait conscient de l'enjeu qu'il représente. Voilà. Et ce discours-là, je crois qu'il a pleinement conscience de l'importance qu'il va avoir.
Et il y aura des ratures, il y en aura pas
Et
mal.
Il va y avoir beaucoup de ratures.
Et mais avant d'obtenir le feu vert de Churchill pour justement s'exprimer à la radio, à la BBC, De Gaulle a dû le convaincre, comme le raconte cet extrait du film.
Mon message de résistance doit être relayé
Répétez, c'est le seul moyen de sauver l'avenir de la France et de s'opposer aux nazis.
Êtes-vous un fou ou un génie ?
Je suis un petit général de brigade, sans troupes, sans aucune légitimité et surtout sans aucun moyen.
Pas un soldat, pas un fusil, pas un bateau.
Monsieur Churchill, vous connaissez la puissance des mots, la force du verbe. Les mots, ce sont les seules armes qui me restent.
Et ces armes, il va les fourbir tout seul, le général de Gaulle ? Comment il va écrire ce texte, ce discours ?
Il va l'écrire avec des allers-retours entre son intention première et la pression diplomatique des Anglais, diplomatique et politique.
Quand vous dites des allers-retours, c'est quoi, avec les Anglais ?
Oui, bien sûr. Il n'y a pas de discours direct de Gaulle parce que de Gaulle est obligé de composer. Et pourquoi est obligé de composer ? Parce que dans le cabinet de Churchill, il y a un certain nombre de ministres, et non des moindres, qui considèrent qu'il vaut mieux attendre le dernier moment, c'est-à-dire la signature effective de l'armistice par Pétain, je rappelle, qui n'interviendra que le 22. Et nous sommes le 17-18. Attention, oui. Il y a donc un temps de latence. Oui. Thomas, vous avez raison, il y a bien eu le discours de Pétain qui annonce au peuple français qu'on arrête les hostilités, oui. Mais l'armistice n'est pas signé. Oui. Et les Anglais, je ne dirais pas par pragmatisme, mais considère que jusqu'à la dernière minute, il faut laisser une ultime chance, oui, à Pétain de se reprendre, de ne pas signer.
Et en plus, Churchill, il est Premier ministre depuis quelques semaines seulement.
Oui,
et donc,
très juste,
il doit imposer aussi son autorité à son cabinet et à ses ministres. Alors, il y a des témoins privilégiés de ces heures là, qui précèdent le discours du 18 juin du général de Gaulle à la BBC, et notamment une femme. Qui est-elle ?
Elle s'appelle Elisabeth de Miribel. C'est une des toutes premières résistantes. Alors là, vraiment, elle s'est présentée dès la déclaration de guerre et elle n'a jamais varié. C'est-à-dire qu'elle a refusé de rentrer en France tant que l'armistice était signé. Et elle a une vie absolument exceptionnelle, cette femme. Elle est aux premières loges et son destin est remarquable.
D'ailleurs, en novembre dernier, on a reçu la biographe Christine Kerdelan, l'auteur de « De Gaulle et les femmes » paru chez Robert Laffont. Elle nous dévoilait cette femme de l'ombre.
C'était une grande jeune femme, brune, mince, très jolie. On peut voir ses photos, c'est vraiment une jolie femme, très indépendante, très patriote, presque un De Gaulle en jupon. Elle avait ce caractère très très fort pour défendre la France. Et elle était prête à peu près à n'importe quoi pour ça.
Pierre Baron, Christine Kerdelan est persuadée que le général de Gaulle et Elisabeth de Miribel ont vécu une grande passion.
Secrète, bien sûr.
Secrète, platonique ou pas, on peut se poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Si j'étais en Angleterre, je vous dirais « so what ».
Si, ça nous intéresse.
Ça vous intéresse ? Non, « so what », ça veut dire « et alors ?» quoi. Ouais. Franchement, la France est dans un état abominable. Oui. Il y a des millions de gens qui sont sur les routes. Le poisson est en train de pourrir par la tête. Il y a une décomposition de l'état-major. Il n'y a plus un homme politique digne de ce nom qui tient la baraque, si j'ose dire. Et on en est en train de se demander si le général de Gaulle a une relation plus ou moins platonique, plus ou moins adultérine.
Non, c'est parce que Kerdelan s'intéresse à l'homme privé, au de Gaulle,
Je sais bien que la version de l'homme public et de l'homme privé, surtout ces temps-ci, a été beaucoup mis à l'actualité. Mais enfin, il ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie, le De Gaulle et Benjamin Griveaux. Donc on pourrait peut-être laisser quand même les hommes historiques dans l'histoire. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'appel du 18 juin ? Qu'est-ce que ça représente ? Et quelle importance ça a dans l'histoire de France par rapport à une histoire qui est strictement privée ?
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je trouve ça très intéressant de savoir ce qui se passe aussi dans sa vie, puisque c'est un homme historique et que ça fait partie de la petite histoire qui raconte aussi quel homme il était. Mais ça n'enlève rien de son talent.
Ouais. Une partie du texte imposée par les Anglais. Vous voyez ce que je veux dire dans cet appel du 18 juin.
Notamment le début, Thomas. Le début, il était beaucoup plus dur et beaucoup plus sévère par rapport au gouvernement de Pétain. Et les Anglais ont imposé des corrections sur les toutes premières phrases de ce départ-là, justement pour attendre l'armistice effectif.
RTL.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
La curiosité est un vilain défaut.
Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
Extrait du discours du 22 juin du général de Gaulle à l'occasion de la sortie en salle du film de Gaulle. Nous sommes à Londres en juin 1940 et on raconte les coulisses de ce discours. Vous allez me dire 22 juin, on parle du 18 juin 1940. Pierre Baron, vous êtes notre sociétaire consultant en histoire. Pourquoi on ne peut pas entendre aujourd'hui le vrai discours du général de Gaulle du 18 juin 1940 ?
Parce que celui du 18 juin n'a pas été enregistré, tout simplement. Enfin. On n'a pas donc de traces d'archives sonores. Ouais. Celui du 22 l'a été, celui qui répondait dans la même journée à Pétain. Mais celui du 18, on ne l'a pas.
En revanche, on a le texte, on sait ce qui s'est dit en substance dans ce discours du 18 juin. Il a été reproduit.
Alors, on a des retranscriptions. Assez curieusement, ça va vous faire sourire. Mais une des retranscriptions les plus fiables est celle de nos amis suisses. Et je vous donne en mille, si Denis, elle est écrite en allemand. Mais en allemand, mais c'est juste drôle. Pour rire.
Et c'est un détail pour
mais c'est vrai, hein, ça fait sourire, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est le discours du 18 juin ? Pour faire simple, c'est deux choses. C'est de dire le combat continue. Et donc, on va s'appuyer en gros sur l'Empire britannique, sur notre propre empire. Je pense à l'Afrique du Nord, c'est transparent pour tout le monde. Et de toute façon, c'est pas fini. La France vient de perdre une énorme bataille de France. Elle n'a pas perdu la guerre, on va continuer.
C'est un conflit mondial, c'est ce que dit De Gaulle.
Et la deuxième très grande idée qu'on voit bien aussi dans le film, c'est que de toute façon, ça ne fait que commencer. Et 18 mois après, ce que Churchill espère, ce que De Gaulle espère dès le départ, va arriver, c'est-à-dire que les États-Unis vont rentrer en guerre. Et là, c'est déjà le déclenchement d'une véritable guerre mondiale. Ça mettra 18 mois, mais l'entrée en guerre de l'Amérique va quand même commencer à bouleverser la donne.
Et comme on aime bien entendre la voix de ce général de Gaulle, on va s'écouter un autre extrait de ce discours filmé le 2 juillet 1940. Donc c'est un discours filmé du général de Gaulle alors qu'il est à Londres. Écoutez.
Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
Et c'est vrai, Pierre Baron, que dans tous ses discours, hein, parce qu'il va beaucoup parler à la radio, à la BBC, à partir du 18 juin 40, il fait référence de Gaulle à la force mécanique. Pourquoi ? Parce qu'il avait écrit, il avait milité pour que la France s'équipe en chars, et que c'est évidemment, vous nous l'avez expliqué, pour ça que l'Allemagne a envahi toute l'Europe grâce à ses blindés et grâce à ses chars. Donc ça revient très souvent dans les discours de Gaulle. Est-ce qu'on peut dire que le 18 juin, mais aussi les discours suivants, c'est un acte fondateur de la résistance ?
Déjà, rien que le mot, Thomas, tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour nous, il apparaît pour la première fois là. En tout cas, c'est peut-être l'expression la plus haute et la plus retentissante de ce qu'est la résistance, parce que c'est la première fois qu'elle se manifeste aussi publiquement. Voilà. Donc, c'est vital dans l'histoire du pays, le 18 juin 40, par rapport à l'occupation allemande. C'est vital.
Et puis, c'est un formidable coup de projecteur sur ce média incroyable qu'on adore à RTL, évidemment. La radio, cette BBC. Oui. On peut dire qu'il a fait l'histoire de la radio aussi. C'est un grand moment de radio, ce 18 juin 1940, avec De Gaulle.
C'est un très grand moment de radio, à l'époque où ce média joue un poids considérable parce qu'il n'a pas de concurrence en termes d'audience. Oui. Et il faut bien comprendre une chose aussi, Sidonie, c'est qu'il n'y a que deux radios qui ont suffisamment d'émetteurs pour être bien entendues, entre guillemets, en Europe. C'est la radio du Luxembourg, on est à RTL, coucou, mais aussi la BBC qui a suffisamment d'émetteurs pour pouvoir être entendue par les familles françaises qui ont des appareils de radio.
Il y avait beaucoup d'émissions irrévérencieuses sur Radio Londres.
Ah oui, énormément. C'est une radio totalement moderne. Ils inventent énormément de choses qui vont se développer bien plus tard. Des sketchs, des blagues, des publicités détournées. Ils inventent surtout un ton qui est en rupture avec le récit très, comment on appellerait ça, grandiloquent de la radio avant, où on déclamait comme si c'était du théâtre. Et sur Radio Londres, c'est l'humour, c'est l'irrévérence absolue. Et ça paye, hein, parce que malgré les interdictions des Allemands, on continue à écouter Radio Londres et on risque gros, évidemment, quand sous la France occupée, on écoute Radio Londres.
On l'écoute parce que effectivement les programmes sont irrévérencieux, osent et se moquent de l'occupant, mais on écoute aussi Radio Londres parce qu'il y a ces fameux messages codés.
Oui, il y a ces fameux messages codés qui vont beaucoup aider la résistance. Alors bien évidemment, on a tous en tête plus ou moins les violons longs des sanglots de l'automne, ouais. Qui en fait s'adressait aux cheminots et qui leur demandait de faire des actes de sabotage pour préparer, mais ils ne le savaient pas, oui. les cheminots, mais c'était pour préparer le débarquement à venir en 44. Mmh. Mais effectivement, ça va jalonner tous les actes de résistance. Et vous saviez qu'un certain nombre de résistants pouvaient obtenir des prêts bancaires s'ils avaient une diffusion sur Radio Londres. Vous imaginez un peu ça ?
Génial.
C'était une garantie que ça pouvait marcher.
Sur Radio Londres, il y a aussi, Pierre Baron, des émissions comme La France parle aux Français, avec notamment Pierre Dac, l'humoriste Pierre Dac. À lui seul, il représente, on va dire, c'est l'humour contre la barbarie, c'est ça ?
Oui, à lui seul, c'est un magnifique exemple que n'importe quel régime totalitaire ne pèse pas lourd avec des gens qui ont de l'esprit. Et quel esprit ? Puisque Philippe Henriot, qui est un des grands pontes de la collaboration, va en faire une expérience cinglante.
On a un extrait, regardez, de sa réponse, la réponse de Pierre Dac à Philippe Henriot.
Si l'aventure vaut pas vous conduise du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.
Merci beaucoup Pierre Baron.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.